Bonjour tout le monde. Ça va bien? J'aimerais vous saluer de la salutation du premier siècle ce matin. Quand les chrétiens se rencontraient, le premier disait « Il est ressuscité ». Et le deuxième disait « Certainement il est ressuscité ». Alors, je vais vous saluer et vous allez répondre « Il est ressuscité ». Gloire à Dieu, il est ressuscité. Merci Seigneur. Merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait plaisir de venir parmi vous partager la parole de Dieu. Et en parlant de la parole de Dieu, ce matin, on a une question bien importante à répondre. Est-ce possible de vivre saintement de nos jours? C'est une question importante, une question principale. Et le texte de ce matin, c'est Daniel chapitre 1er, les versets 1 à 9 et le verset 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le jour que je me suis repenti et que j'ai cru que notre Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité, je travaillais dans le drainage agricole comme opérateur de machines lourdes. Et quand on parle de machines lourdes, on parle de machines d'environ 45 tonnes, 90 000 livres. Et puis quand on parle de drainage, on parle de terre détrempée. Alors, machines lourdes, terre détrempée, bien, il y avait souvent des enlisements. Je me prenais souvent. Et puis, pour sortir de là, ça prenait une machine aussi forte et aussi grosse pour être capable de sortir ça de là. Mais surtout, ça prenait un câble. Un câble qui était capable de résister à cette pression-là, non seulement pour être capable de lever ce poids-là, mais en plus, c'était en pente, puis en plus, il y avait la suction du sol. Ça prenait un câble adéquat pour être capable de faire ça. Vous savez, le monde, par tous les moyens, il veut essayer de nous étirer hors nos limites. Il veut nous embourber pour que ça soit pour nous de plus en plus difficile pour nous en sortir. Nous devons donc nous engager à se forger une foi qui résistera aux pires pressions de ce monde païen-là. À l'image du câble que je vous parlais tantôt, la foi que Jésus enseigne est destinée à être le plus efficace dans la rue. Quand je dis dans la rue, je veux dire dans nos vies quotidiennes. Dans nos allées et venues, dans nos sorties puis dans nos entrées. Cette foi-là, Jésus nous enseigne à ce que soit une foi adéquate, appropriée pour nos vies, celle qui nous convient. Et cette foi-là, on doit la forger de telle manière à ce qu'elle ne brise pas à chaque fois qu'elle rencontre de la résistance. Parce qu'elle va en rencontrer dans le monde de la résistance. Et en parlant de ça, j'ai une couple de versets à vous citer. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Savez-vous, c'est qui la personne la plus frustrée sur cette terre ici? C'est pas le païen, c'est pas le non-croyant, c'est pas la personne qui est perdue. Lui, il pense qu'il y a du fun, il pense que tout va bien. La personne la plus frustrée, c'est le chrétien qui ne vit pas une vie sainte puis une vie pure, qui vit une vie charnelle, égoïste. Lui est à cheval, sa clôture, il veut un peu Dieu puis il veut le monde, fait qu'il est en confusion. Il est ébranlé, misérable, souvent abattu. Cette personne-là, elle veut le monde, mais elle veut Dieu aussi. Elle demeure insatisfaite, puis bien entendu, spirituellement inutile. Elle veut Dieu quand ça fait son affaire. Mais la majorité du temps, elle veut le monde. C'est elle la personne la plus frustrée. J'aimerais éclaircir deux mythes là, en ce qui concerne la sainteté. Le premier mythe, il y en a qui pensent que c'est impossible d'être pur dans notre société aujourd'hui. C'est complètement faux de croire ça. Ça, c'est un mensonge direct de l'abîme. Si c'était impossible, pourquoi que notre Père nous le demanderait-il qu'on soit saint et pur? Écoutez, 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Je ne sais pas vous, là, mais... Pensez-vous que notre Père va nous demander de faire des affaires qu'on n'est pas capable d'accomplir, vous pensez? Moi, je ne connais pas mon Père comme ça. Là. S'il nous demande d'être saint comme que lui est saint, il va pourvoir à la manière pour qu'on soit capable d'avoir la victoire, qu'on soit capable d'avoir du succès. Amen. Le deuxième mythe que je veux éclairer, c'est qu'il y en a qui croient que il faut pécher à chaque jour en pensée, en parole puis en action. Ça, c'est complètement faux, ça, avec. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on demeure de la même manière comme qu'on était avant. C'est pas comme ça qu'il veut qu'on vive. Il veut qu'on vive dans la victoire. Puis il y en a certains qui essayent de justifier leur péché, mais Jésus a tout pourvu à ce qu'on ait la victoire puis qu'on ait du succès. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'abeille Flandre par hasard. C'est un super remorqueur sur le bord des côtes en France. Là. Un des plus puissants au monde, selon le test Ballard, qui évalue les puissances de traction. Ce super remorqueur-là, il est capable de tracter des stations de forage pétrolière en haute mer. Il a une capacité incroyable. Mais l'abeille Flandre est surtout renommée, pas pour sa puissance de traction, mais surtout renommée pour ses sauvetages, autant en vie humaine qu'en matériel. Parce que où ce qui est stationné, il est stationné à Brest, sur le bord de la côte de Ouessant. Puis ça, c'est les courants, c'est parmi les pires qui sont dans ce bout-là. On peut pogner de la vague de 10 à 12 mètres même. Quand la tempête annonce, lui, il apparaît, puis on part. Qu'est-ce que les autres bateaux ils font? Ils vont se cacher, les autres. Ils n'en veulent pas de tempête. Ils trouvent une cachette en quelque part, mais lui, il part, puis il s'en va en haute mer à être prêt. Si jamais il y a un appel de SOS en quelque part, on va être prêt pour y aller. Parce que s'il y a un appel, ce n'est pas le temps de partir là-bas. Là. C'est trop long, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit déjà sur les lieux. C'est à ça qu'il est reconnu. Qui c'est qui aime les problèmes? Levez la main, ceux qui aiment les problèmes. Il n'y a personne qui aime les problèmes. Hein? Pasteur Maxwell, il dit, en parlant des problèmes, soit tu sors d'un, soit tu es dans un, ou soit il y en a un qui t'attend au tournant. Hein? C'est comme ça que ça marche, les problèmes. La vie, c'est comme ça. Mais vu qu'on sait ça, là, on n'est pas obligé de succomber. Amen. On n'est pas obligé d'abandonner puis de chuter. La foi nous redresse. Lorsque le monde nous met la pression pour se compromettre, lorsque notre société fait tout pour essayer de nous conformer à son image et à prendre leurs habitudes, ce n'est pas le temps d'aller se cacher, ce n'est pas le temps de fuir. Jésus a tout pourvu à notre victoire. Je pensais à Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me suis aussi rappelé 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pas de la provision, ça? Oh, ça en est toute une, ça. Je dirais même, ça en est toutes deux. Oh, merci Seigneur. Lorsque la pression du monde se fait sentir, c'est pas le temps d'aller se cacher dans le garde-robe. Là. C'est pas le temps d'aller se cacher dans le cabanon. Lorsque les vents puis la tempête du monde arrivent, de l'ennemi nous assaille, la victoire n'est possible qu'en Jésus seulement. Notre Seigneur. Est-ce possible de vivre saintement de nos jours? Commencez-vous à voir que la réponse commence à se former là, tranquillement, pas vite. Hein? 5 choses ce matin dans notre texte. La première que je veux vous parler, c'est le contexte. Ça, c'est les versets 1 à 4a. La troisième année du règne de Joachim, roi du Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Rappelle que Nébuchadnezzar est venu contre Jérusalem et il l'a assiégé. Nébuchadnezzar est venu 3 fois contre Jérusalem. Et ici, c'est la première fois, en 605 avant Jésus. Il est revenu plus tard, 10 ans plus tard, en 595 avant Jésus. Il est revenu une autre fois, pour la troisième fois, en 585 avant Jésus. Mais ici, c'est la première fois, en 605. Et puis c'est là qu'il a emmené des jeunes gens, captifs, à Babylone. Quand on dit jeunes gens, on veut dire alentour de 13, 14, 15 ans. Arrachés de leur famille, arrachés de leur village, de leur maison, puis on les emmène à Babylone. À Babylone, une ville immense, impressionnante. Une ville avec une muraille de 25 mètres de haut par 25 mètres d'épais. Quelque chose d'assez impressionnant pour les jeunes. Même si c'était dans le temps des merveilles du monde là, à Babylone. C'est dans cette société-là que Daniel et ses 3 amis ont été catapultés pendant 70 ans de captivité. Maintenant, je veux vous parler de la deuxième chose, des tactiques que le monde prend pour essayer de nous conformer à leur image. La première tactique qui s'y utilise, c'est l'éducation. Et là, nous sommes au verset 4b. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors, Babylone, pour essayer de laver le cerveau de nos jeunes amis, a décidé d'utiliser comme première tactique l'éducation. La meilleure éducation de ce monde-là qui existait en ce temps-là. Pendant 3 ans, la crème de la crème des universités à Babylone. Quelle université que vous aimez aujourd'hui, là? Oxford, Yale, nommez-les. C'était à Babylone dans ce temps-là. Imaginez-vous, des jeunes amenés là pour être endoctrinés, pour leur enseigner le point de vue de Babylone, enseigner la perspective de Babylone, leur philosophie. Écoutez-moi ici. Si dans nos foyers, nous autres, on n'enseigne pas la vérité à nos enfants, c'est eux autres qui vont le faire à notre place. Si on n'est pas capable de leur donner des munitions pour qu'ils soient capables de répondre, ça ne marchera pas. Il faut avoir une foi capable de tenir bon face aux tentatives répétées de l'éducation pour leur laver le cerveau. Il faut se forger une foi ensemble. Une foi capable de résister aux pressions, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants aussi. Ici, on connaît l'histoire, vous avez déjà lu Daniel, il sort du test avec mention. Mais posez-vous la question, ou posons-nous la question, comment est-ce que Daniel et puis ses 3 amis ont été capables de passer à travers ça? À 13, à 14, puis à 15 ans. C'est parce qu'ils ont été enseignés dans leur maison, par leurs parents, par leurs grands-parents. Leurs parents puis leurs grands-parents leur ont formé une foi qui était capable de résister à l'influence d'un monde impressionnant comme ça, dans une situation exceptionnelle comme ça. Écoutez-moi là. Ce n'est pas 1 heure et demie d'église par semaine qui va contrer 40 heures de monde. Ça, c'est la première tactique que Babylone utilise pour essayer de conformer les enfants à leurs images. La deuxième tactique, c'est par le style de vie. Et ça, on trouve ça au verset 5. Daniel, chapitre 1, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Voulant changer leur diète, Babylone voulait que ces jeunes gens-là changent de style de vie. En voulant dire, à partir d'Astor, tu ne vivras plus comme un juif. Là. C'est fini, là. Mais vous allez vivre comme des païens. Et on va tenter de vous donner la meilleure bouffe qui existe, les meilleurs vins, les meilleures choses qui existent pendant 3 ans. Des chefs étoilés Michelin, 5 étoiles à Babylone. Hein? On va vous donner le best, le meilleur vin. Toute une intimidation pour ces jeunes gens-là, n'est-ce pas? La société fait tout pour que nous adoptions leurs habitudes et leurs comportements, que ce soit autant au travail, n'importe où, à l'école, dans la famille, dans la société. Ils veulent qu'on fasse les choses comme eux autres. Mentir, c'est pas grave. Tricher, il n'y a rien là. Voler, hein? Ils veulent nous forcer à adopter le style de vie. La troisième tactique qu'ils utilisent, c'est le changement d'identité. Et ça, on trouve ça au verset 6 et 7. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach, à Azaria celui de Abednego. Changement d'identité. en voulant dire qu'à partir de cette heure-là, tu n'auras plus rien à faire avec Dieu. C'est fini, là. Tu n'es plus un enfant de Dieu, tu ne seras plus juif. Là, nous autres, notre société, on va te donner des noms, puis là, tu vas te conformer à ces valeurs-là. C'est de même que ça va marcher. La société met la pression pour les mouler à leur point de vue. Rappelons-nous Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. On ne se conforme pas au siècle présent. Le monde fait tout pour nous éloigner de là. Puis nous autres, on va lui donner raison. Ça ne marche pas comme ça, là. Le monde, il dit, le péché, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de jugement, tu peux vivre comme bon te semble. Essaye de te faire quoi, toutes sortes d'affaires. Tu peux faire ce que tu veux, c'est toi le maître à bord. Tu es le seul à bord. Tu sais, lire la Bible à chaque jour, là, c'est une perte de temps, là. Tu n'es pas obligé de faire ça, là. Prier, puis étudier, puis adorer Dieu, là, c'est inutile. Et puis, la société, dans ce temps-là, en 605 avant Jésus, Babylone, c'est ça qu'ils voulaient faire avec ces jeunes-là. En changeant leur nom, ils veulent changer toutes leurs identités au complet. Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». On ne parle plus de Dieu à cette heure, on enlève ça de là. Monsieur Ashpenaz, il a décidé qu'à partir de cette heure, tu vas t'appeler Belshazzar. Un nom qui honore un dieu babylonien. Bel, hein? Qui est traduit « protégé par Bel ». Anania, ça veut dire « Dieu est gracieux ». Il l'a changé en Shadrach, ça veut dire « commandement d'accus ». Michaël, qui est ce que Dieu est? En Meshach, qui est ce qu'Acu est? Pas des moqueries à peu près, hein? Azaria, Yahweh a aidé. En Abednego, serviteur de Nébo. En voulant dire, à partir d'Aster, là, vous n'êtes plus des enfants de Dieu. Oublie ça, là. Vous allez être un produit de la société babylonienne, puis elle va vous façonner pour que vous en deveniez un bon. Assimilé au bout. Le monde est dit divertissement. Poursuis ça. Poursuis ta carrière. Poursuis des autos, des maisons, toutes sortes d'affaires, des amusements. Puis même flirter avec l'occultisme. J'ai remarqué qu'il existe une fascination grandissante puis même inquiétante de l'occultisme. En Angleterre, ceux qui frappent la monnaie royale, OK? La monnaie royale britannique, elle a frappé pour les connexionneurs 4,50 pence. Deux à l'effigie de Reine Élisabeth et deux à l'effigie du roi Charles. Et à l'endo, c'est Harry Potter sur deux et deux autres choses du film qui le concernent. Incroyable. Ici au Québec, ça s'en vient ces affaires-là. Le cultisme, le monde pourrait avoir comme devise « Heureux ceux qui ne suivent pas Dieu, car Dieu veut t'enlever tout le fun. » Hein? Ça serait leur bonne devise. La société veut nous prendre en otage. Vous avez certainement entendu déjà parler du syndrome de Stockholm. Ouais, syndrome de Stockholm. Après un bout de temps, les otages, ils commencent à sympathiser avec leur ravisseur. Hein? Et puis, si on commence à danser avec le monde un petit peu trop, là, il va nous prendre en ravisseur sans qu'on s'en aperçoive. Avez-vous déjà entendu parler par hasard du principe de la grenouille dans la marmite? Oui, hein? Ça s'applique pas mal bien ici, là. Pour ceux qui ne le savent pas, la grenouille de la marmite. C'est si on prend une grenouille et on la place dans un chaudron d'eau bouillante, elle va se mettre à sauter et elle va se sauver. Mais si on la met dans l'eau chaude, tiède, confortable, puis on augmente le feu tranquillement, pas vite, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va y bouillir à mort. Pour dire que si nous tolérons le péché assez longtemps, ça va finir par nous tuer. Alors, c'est les trois tactiques que le monde utilise pour essayer de nous conformer à leur image. L'éducation, le style de vie et puis le changement d'identité. Troisième point ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est la rationalisation. En voulant dire que les jeunes, pour essayer de ne pas écouter Dieu, ils auraient pu trouver n'importe quelle sorte d'excuse. J'en ai quelques-unes à vous suggérer. La première excuse, c'est le compromis. Voyez-vous, les jeunes auraient pu dire, si les circonstances auraient été normales, bien, la loi, elle doit être obéie. Mais vu qu'on est rendu captif à Babylone, puis loin de nos familles, puis loin de tout, la situation n'est pas normale. Alors Dieu ne s'attend certainement pas à une obéissance totale, vu que c'est une situation exceptionnelle. Mais voyez-vous, le problème avec ça, c'est qu'avant que Nebuchadnezzar arrive, c'était une situation normale en Juda. Et puis, Dieu avait envoyé des prophètes parce qu'ils n'obéissaient pas, puis ils se sont ramassés en captivité. C'est ça le problème. Le deuxième, c'est blâmer Dieu. Oh, il y en a qui sont bons pour ça, hein? Blâmer Dieu pour qu'est-ce qui se passe. En voulant dire, c'est lui qui nous a mis dans le pétrin, là. C'est lui qui nous a envoyés en captivité. Donc, je ne suis pas obligé d'obéir à Dieu vu qu'il m'envoie là, hein? Rendu ici, les gens ne prennent aucune responsabilité de leurs actions. Ils sont tous innocents, puis c'est Dieu le coupable. C'est de sa faute à lui, hein? Pas de ma faute à moi. Tous les autres. Une troisième excuse que j'ai trouvée, puis on s'en va vers le pire, c'est que le péché est une bénédiction. Il y en a qui pensent ça, là. Les jeunes auraient pu se dire, écoutez, là, Dieu, il nous bénit ici en masse, hein? Il nous pourvoit à la meilleure éducation qui existe, hein? À l'UDB, hein? À l'Université de Babylone. Il nous fournit une table avec de la meilleure nourriture, avec du bon vin. Hein? Changement de nom. C'est pas si grave, changer de nom, je suis capable de prendre ça, hein? M'a toléré ça. M'a pouvoir avoir des promotions, m'a pouvoir avoir peut-être un petit peu plus d'influence sur les autres. Donc, je ne suis pas tenu à obéir les lois de Dieu. Il cite la personne à avouer le péché comme une bénédiction. Pas drôle, ça. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oh! Je pense qu'il faut être un peu tordu, ici, là. Je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, lorsque on était pasteur à Saint-Eustache, on avait des différentes activités de temps en temps à chaque mois, le vendredi soir. Puis ce vendredi soir particulier-là, après l'activité, on jasait entre autres. Puis il y a une madame qui s'approche, puis elle dit, pasteur, j'ai une bénédiction à vous raconter. Moi, je suis pour ça. Je suis pour ça, entendre les bénédictions que Dieu amène. Fait que là, elle commence à me dire, elle dit, le Seigneur, il a envoyé un bel homme dans ma vie, un homme bon, doux. Ben, je dis, madame, vous êtes mariée. Oui, mais Dieu m'a envoyé une bénédiction, c'est lui qui l'a placé sur mon chemin. Je vais essayer de la raisonner, mais tristement, ça a fini par un divorce. C'est triste. Essayer de rationaliser le péché comme ça pour se conformer au monde. Incroyable. Nos jeunes, c'est-tu de même qui ont réagi, eux autres? Ils ont-tu commencé à penser comme ça? C'est pas comme ça qu'ils ont pensé pantoute. Quatrième chose, leur réaction. Comment qu'ils ont réagi au verset 8 et 9? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. La première réaction, ça a été la résolution. Hein? Daniel résolut. Déjà avant même que la situation arrive, Daniel et ses amis avaient résolu en leur cœur qu'ils obéiraient à Dieu face à la pression, qu'importe la pression. Amen. Ils avaient résolu ça dans leur cœur, d'agir avec justice, avec droiture, qu'importe. Merci Seigneur. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Tout débute dans la pensée. Tel il pense, tel il est, une version dit. Réfléchir d'avance, puis déterminer d'avance de ne pas tomber avant même que la situation arrive. La guerre est déjà gagnée. Puis le pont, le monde fait tout son possible pour essayer de nous empêcher de penser bibliquement. Il y a des distractions partout, à droite, à gauche, des publicités, toutes sortes d'affaires pour nous empêcher de s'arrêter puis de réfléchir. Dans l'ascenseur, tu as de la musique. Tu appelles en quelque part pour de l'aide au téléphone, tu as de la musique. Tu n'es pas capable d'arrêter puis réfléchir. Mais c'est à moi de décider. Amen. Pas au monde. C'est moi qui détermine à l'avance mon style de vie selon mes valeurs bibliques. Gloire à Dieu, on ne laissera pas le monde nous dicter notre conduite. Par chez nous, il y a un dicton. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Tu te couches comme tu fais ton lit. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Tu te couches comme tu fais ton lit. Ça veut dire que tu vas vivre les conséquences de tes décisions. C'est ça qui arrive ici. Mais en gros, grosso modo, là, je sais pas mal qu'est-ce qui va arriver d'avance dans certaines situations. Je vais juste vous prendre un exemple. Quand j'étais au travail, quand il arrivait le dimanche, un petit peu après souper, là, je commençais à penser déjà à ma semaine qui s'en venait, puis je savais le lundi ou le mardi que j'étais pour rencontrer certaines personnes. Puis là, ces personnes-là, je savais d'avance qu'ils étaient pour se moquer ou ridiculiser ou persécuter, je le savais d'avance. Ça, c'était à leurs habitudes, ça, quand ils mouillaient ou bien quand ils voyaient d'autres chrétiens. Mais on avait résolu d'avance de ne pas tomber, de ne pas embarquer là-dedans. Il y a des temps qu'on sait comment. Des fois, quand on va rencontrer la famille, hein, on sait que si mon oncle un tel est là, c'est sûr que je vais y goûter, hein. On le sait d'avance. Être résolu d'avance de ne pas être conformé au monde puis d'embarquer dans leurs affaires. C'est moi qui ai établi la limite, c'est pas eux autres. Puis je base ma limite sur la parole de Dieu. C'est elle qui est mon guide, ma lumière, la lumière sur mon sentier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Oh oui, Seigneur, merci. Ça a été leur première réaction. Daniel était résolu. La deuxième, verset 8b. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il pria. Daniel avait une bonne attitude. Quand que M. Ashpenaz, là, il voulait y offrir toutes sortes d'affaires, là, il n'a pas commencé à l'insulter, puis à crier après, puis à dire, « Moi, là, je suis un juif, puis je ne touche pas à ça, puis je m'en... » Non, il n'a pas commencé à faire son pharisien, hein? On sait que c'est ce que Jésus faisait avec les pharisiens. Hein? Il était souvent pris pour les mauvaises attitudes. Mais Daniel pria M. Ashpenaz. Une attitude de politesse, de respect envers l'autorité. Même si c'était un ennemi, même si c'était un intimidateur, il le pria. Être soumis. Je vais juste vous lire un passage, c'est dans Jérémie 29, les versets 4 à 7. Puis dans Jérémie 29, le Seigneur y écrit aux captifs à Babylone. Écoutez ça. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Selon la loi, hein? Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Même en captivité, quand tu t'en vas là-bas chez l'ennemi, je veux que tu sois un exemple. Je veux que vous soyez des citoyens modèles, respectueux. C'est sûr que parfois, il nous arrive des injustices dans nos vies. Il y en arrive. On mange les coups des pécheurs parfois, ça c'est certain. Mais il faut demeurer respectueux, demeurer courtois. Et puis, quand j'y pense, ben, avec le passage qu'on a ce matin, les adolescents sont en train de nous enseigner toute une leçon. Hein? Des jeunes hommes de 13-14 ans. Dans mon bout, on dirait qu'ils sont capables de nous faire la barbe. Hein? Ben oui, un jeune de 13, 14, 15 ans qui suit le Seigneur, il est capable de nous en montrer. Et la troisième, Dieu, verset 9, « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef, des eunuques. Et Dieu a béni une telle considération. Dieu a honoré l'obéissance de ces jeunes-là. Les jeunes ont mis leur confiance en Dieu. C'est lui qui leur a donné la victoire après le test. Ils ont fait de lui leur Dieu, qu'importe que les pressions que la société babylonienne a essayé de mettre sur eux autres, ils ont fait confiance et Dieu a honoré cette confiance-là en faisant que Daniel s'est regardé avec faveur. Et la cinquième chose ce matin, l'habitude. Au verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voyez-vous ici, Daniel, quand il écrit son livre, ça fait déjà 70 ans qu'il est en captivité vers la fin, puis il vient de dire que c'était des jeunes gens entre 13, 14 ou 15 ans ou quelque chose comme ça. Fait que vous pouvez faire les mathématiques. Daniel, il a passé 4 rois. 2 sous-rois, Daniel avait une vie chrétienne de marathon. Une vie et une foi chrétienne qui dure et qui endure. Une foi qui est capable de prendre la pression que le monde et la société met sur lui. Il était obstiné, entêté pour Dieu. Pour le long terme, pour la longue distance. Il n'était pas avec Dieu juste pour les beaux jours. Quand il fait beau puis il fait soleil. Non, non. Même sous un gouvernement de dictature, un gouvernement qui avait le contrôle de la vie, de la mort et la mort des personnes, en un seul homme avait le contrôle. Il suivait Dieu quand même. Daniel a fait des affaires dans les plus hautes sphères et dans les plus hauts échelons du monde politique de son temps. Et puis, il en est sorti impeccable. Wow! Tout un exemple. Dès son jeune âge, 13, 14, 15 ans, il était impressionné par une seule personne, lui, par Dieu. Nebuchadnezzar, non. Tout un modèle pour nous autres. Alors maintenant, je pense que nous sommes en une bonne position pour être capables de répondre à notre question initiale, n'est-ce pas? Est-ce possible de vivre saintement de nos jours? Et la réponse, oui! Merci Seigneur! C'est possible! Dieu a pourvu à ces quatre jeunes-là et il va pourvoir pour nous autres aussi qu'on soit capable de mener une vie sainte dans la société où ce qu'on vit, à l'endroit même où c'est qu'on est. Fais confiance à Dieu pour la réussite. Vous savez, la poursuite de la sainteté, ce n'est pas une perte de temps, là. C'est une noble quête qui nous encourage à nous séparer de plus en plus du monde et se consacrer de plus en plus vers Dieu. Puis cultiver cette relation-là. Alors, encourageons-nous les uns les autres à se forger une foi qui va résister non seulement aux pressions que la société met sur nous, mais au temps aussi. Amen. Prions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Seigneur Dieu, on sait comment que le monde s'y prend pour essayer de nous conformer, de nous embourber, essayer de nous mouler, Seigneur, à leur image. Mais vous, vous avez pourvu. Au-delà même de qu'est-ce qu'on pouvait espérer, qu'on soit capable de grandir, puis d'avoir la victoire sur ce monde-là, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Vous êtes vivant aujourd'hui. Vous avez ressuscité. Et cette vie-là, elle est en nous. Bien plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Oh, Seigneur Dieu, gloire soit à vous. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Votre attention.